Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro de Jeudredi, votre rendez-vous hebdomadaire sur Agone Radio. Au sommaire de ce soir, nous parlerons des expositions à venir et de leur vernissage commun qui se tiendra le 1er avril prochain, de la galerie oblique et de l'espace contre-contre. Nous recevrons successivement Christian Bidot et Vincent Fournier pour l'exposition L'échelle du paradis de Vincent Fournier à la galerie oblique et puis Julien Marolf pour l'exposition La respiration du temps de Laurent-Dominique Fontana à l'espace contre-contre. En deuxième partie d'émission, nous parlerons biodiversité et paysage, l'un des axes majeurs du projet de parc naturel régional de la vallée du Trien, en compagnie d'Adrien Favre et de James Deriva. Un entretien qui s'inscrit dans la série de sujets que nous vous proposerons tout au long de l'année sur nos ondes pour faire plus ample connaissance avec ce projet majeur pour notre région. Nous sommes le jeudi 23 mars 2023 et nous sommes ensemble pour une heure sur Agone Radio.
Donc nous avons le plaisir d'accueillir, pour nous parler de la galerie oblique, Vincent Fournier et Christian Bidot. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Tout d'abord, Christian, la galerie oblique, ça fait depuis créé en 2018. Comment on crée une galerie comme ça?
Donc là, il y avait la commune nous avait pris contact en 2015. Non, même avant, c'était la maison Duc qui était dans un état d'abandon depuis une quinzaine d'années. Et la commune nous avait proposé, si on était intéressé, de créer à la fois une galerie et au premier étage un atelier. En fait, nous étions déjà dans la grande rue, la FOVAM, il y avait un atelier, donc la FOVAM, c'est la Fondation Valaisanne en faveur des personnes handicapées, et nous avions un atelier d'expression artistique avec 8 personnes en situation de handicap qui travaillaient l'art, la peinture, le dessin, la
photo. Avec des expositions comme maintenant.
Avec des expositions, et dès le départ du projet de cet atelier, il y avait l'idée d'avoir un espace pour inviter des artistes de l'extérieur. Donc à la galerie oblique, on n'expose pas forcément les artistes de l'atelier, mais plutôt des artistes qui viennent de l'extérieur.
Extérieur, ça veut dire locaux, valaisans, suisses, internationaux.
On dira suisse romand, mais avant tout valaisans et chablaisiens. Et voilà, donc l'idée, c'était les artistes qui s'engagent à exposer à la galerie s'engagent aussi à interagir avec les artistes du premier étage. Donc il y a à chaque fois des choses différentes qui se passent, soit une visite d'atelier, soit pour l'exposition de Vincent Fournier, ça sera quelque chose de très particulier, où Vincent a fait le choix d'introduire des œuvres des artistes du premier étage dans son exposition, en réussissant à interagir avec eux de manière d'une bonne manière. Voilà.
Il y a pas mal de Saint-Mauriard et des environs qui ont déjà visité la galerie. Pourquoi il faut venir visiter cette galerie? Qu'est-ce qu'il y a vraiment de choses particulières ou d'uniques?
Alors, cette galerie, elle est particulière. Donc, on avait commencé en 2018 avec l'exposition Christine Aymon, qui avait attiré vraiment une très grande foule, plus de 5000 personnes en 5 semaines. Et ça avait vraiment implanté la galerie dans la région et dans la ville de Saint-Maurice aussi. Donc cette galerie a eu une distinction architecturale en 2019. Elle a reçu le prix suisse de la rénovation. Et c'est vraiment une œuvre en soi. Il y a beaucoup de gens qui viennent surtout visiter la galerie, l'aspect architectural de la galerie. Le bureau Guy Menzel a fait tout un projet où, en respectant le plus possible l'histoire du lieu, et à leur intervention, c'est en béton brut. Et donc il y a à la fois du contemporain, de l'ultra-contemporain et l'histoire de ce lieu. En fait, il n'y a pas grande histoire puisque c'était la Maison Duc, c'était un magasin d'électricité que tout le monde connaît. Voilà. Tétina qui tenait ce magasin. Exactement, je crois qu'on m'en a beaucoup parlé.
Vous avez combien d'expos par année?
Alors on a 4 expos par année. Et en début d'année, le janvier, février, mars, 2 expositions en vitrine.
En vitrine, c'est-à-dire?
C'est-à-dire que c'était une idée qui nous est venue lors de l'arrêt de la galerie durant la pandémie. de Covid et on voulait absolument garder une animation à la fois dans la Grand Rue et aussi garder cette galerie vivante. Et ça se faisait dans d'autres villes, donc où il y a des. Puis ça offre l'opportunité de présenter un artiste du coin, de la région, comme il y a passablement de demandes pour exposer à la galerie oblique.
Donc vous n'êtes pas demandeur, il y a des gens qui viennent. Enfin, les expos, comment ça se passe? Vous avez un réseau de connaissances
Alors non, c'est plutôt le contraire. Là, il manque véritablement de lieux d'exposition en Valais en particulier. Mais oui, alors on voit qu'il y a vraiment un réel besoin.
Les contacts avec Vincent Fournier sont passés comment? Vous l'avez invité? C'est lui qui s'est annoncé
Alors, faut que ça doit dater de très longtemps.
Enfin, autre question, vous connaissez mais, avant, donc.
Oui, je le connaissais avant, et puis, mais ça se passait plutôt par l'atelier.
Mais tu te souviens? Moret.
Louis Moret. Alors, vas-y.
Il me semble que la première fois que je t'ai rencontré, c'était lors de mon exposition à la Fondation Louis Moret, où tu es venu avec ton équipe.
Ah voilà.
Il me semble avec que c'est
l'atelier.
Comme ça.
Oui. D'accord. Voilà.
Donc Vincent, exposition du 1er avril au 5 mai, l'échelle du paradis. Ça veut dire quoi?
Alors, je pense que pour moi, tout être, toute personne est spirituelle, fondamentalement. Avant d'être ouvrier ou banquier ou prêtre ou etc. ou artiste, je pense que la vocation profonde de tout être humain, c'est la spiritualité. Et en ce qui me concerne, moi j'ai une grande nostalgie du ciel. Et l'échelle du paradis, en fait, c'est l'expression de cette nostalgie. Elle m'est devenue beaucoup plus claire et familière depuis quelques années, car j'étais invité, effectivement de nouveau pendant la pandémie. En fait, on ne savait pas qu'il allait avoir la pandémie, mais j'étais invité en Turgovie à faire une œuvre in situ, à côté de la Chartreuse d'Ittingen. La Chartreuse d'Ittingen, c'est un monastère où autrefois vivaient des contemplatifs, c'est-à-dire des gens professionnels,
spirituel.
Complètement spirituels, en fait, pour qui la vie spirituelle est première. Dans ce lieu, j'ai dû faire une œuvre in situ qui consistait à faire une œuvre artistique dans un escalier qui montait sur la colline. Et l'idée, l'intuition qui m'est venue, parce que quand on était en bas de cet escalier, de ce très grand escalier, on voyait le ciel, que le ciel. Donc mon intuition, c'était de relier le ciel et la terre. Donc j'ai mis 185 contre-marches, bleu ciel. Donc quand on était au fond, on pensait que c'était soit le ciel qui coulait jusque chez nous, ou soit que c'était l'échelle du paradis.
Comment on devient artiste? Parce que bon, moi, je suis plutôt technique, donc oui. Vous avez fait l'école des beaux-arts.
Alors, effectivement, moi, j'ai fait une école
des
beaux-arts.
Donc, depuis tout jeune, vous êtes attiré quand même par le milieu des arts?
Non, pas... en fait, je pense que... Avant d'être artiste, en fait, pour moi, c'était vraiment l'histoire de la spiritualité. Moi, je viens de Vézona, d'un petit village, depuis tout jeune, j'ai eu un penchant pour, une acquaintance, une connaissance un peu de la vie spirituelle. Donc, elle m'était assez familière. Ça m'a, même si on sait tout ça, on doit vivre sa vie d'homme et on sait que c'est difficile.
Donc là, ça permet de rechercher.
Non, alors ce que je veux dire, c'est que
ça.
C'est que j'en étais conscient, mais je pensais pas. Oui, l'art permet d'exprimer ça. Donc pour moi, l'art, c'est une vocation. C'est une vocation qui permet à une personne d'exprimer son authenticité, son unicité, mais qui doit parler à tous les autres. Voilà. Et pour moi, c'est effectivement la vie spirituelle.
Depuis une vingtaine d'années, vous faites des expositions. Vous avez exposé à Sion, exposé aussi, là-bas, on parlait avant, la Fondation Moret à Martigny. C'est la première fois ici,
la Galerie Oblique? Non, c'est la deuxième fois que j'expose à la Galerie Oblique.
Et les œuvres que vous présentez, c'est des œuvres uniques?
Alors, oui, moi j'ai fait que des originaux, oui.
Quand on est artiste, quand on a une idée, donc là on parle beaucoup de spiritualité, de profondeur, d'intuition quelque part, l'œuvre pour sortir, est-ce que c'est quelque chose d'instinctif ou alors c'est quelque chose qui est imaginé et puis qui... Enfin, je ne sais pas comment expliquer, alors, un peu comme un enfant qu'on mettrait au monde, enfin, mal placé pour dire ça. Mais...
Alors pour vous expliquer, en tout cas en ce qui me concerne, c'est que comme c'était quelque chose de très profond, ma recherche, elle a pris beaucoup de temps à se mettre en place, à ce que je connaisse le vocabulaire exact et puis l'expression précise de ce que je voulais exprimer. Donc, moi, ça fait peut-être 10 ans, maintenant j'ai 62 ans, ça fait peut-être 10 ans que les choses se mettent vraiment en place et que maintenant, elles s'incarnent. Moi, j'aime bien parler d'incarnation parce que je parle de choses spirituelles, mais c'est la matière qui compte. Donc, si vous venez dans cette exposition, vous voyez des planches de bois, des vieux papiers, des déchirures, toutes sortes de techniques, la tempéra, l'huile, le crayon, et voilà.
C'est aussi un style très épuré, hein ?
Oui, c'est un style très épuré, mais habité.
Et le style épuré, il vient par un besoin de faire un style épuré ou par un style ?
Non, c'est quelque chose qui... Je pense que tous les artistes, ils cherchent quel est leur langage authentique. Et moi, c'est celui-là parce que c'est le silence qui me nourrit.
Et votre style, vous le qualifiez comment ? Est-ce qu'il a évolué depuis les premières expos ? Ça fait 20 ans. Est-ce que vous suivez un chemin ? Mes questions sont peut-être difficiles.
Non, mais elles sont justes, elles sont pertinentes. En fait, c'est un chemin où l'artiste, de plus en plus, reconnaît son écriture. Il est inspiré d'autres artistes. Moi, j'ai quelques artistes qui m'ont profondément inspiré. Mais au bout d'un moment, on sent qu'il y a l'authenticité de ce qu'il fait qui ressort. Et avec le temps, l'artiste est juge de son travail. Et meilleur juge il est, plus l'œuvre est forte.
Quand vous avez fini une œuvre, vous revenez jamais en arrière. Pour vous, c'est terminé.
Non. Alors moi, une œuvre, elle peut commencer maintenant et peut-être c'est un petit dessin comme ça. Hein, puis je le termine dans 10 ans.
D'accord. Oui. Donc c'est pas comme quand on fait, par exemple, de la peinture de paysages et des choses comme ça. On dit maintenant c'est terminé. Là, il y a toujours.
Ben Matisse qui était un peintre, il a retouché des peintures dans les musées. Elles étaient accrochées dans des musées. Une fois, c'était une chambre verte, le titre. Il est venu un jour, il a fait une chambre rouge.
Donc vous y repensez
tout le
temps. Il a
retapissé.
Vous avez vos œuvres, vous y repensez tout le temps.
Moi, je suis constamment en présence de l'expression artistique.
Quand on va visiter cette expo, on doit regarder quoi en particulier ? Quel regard on doit poser sur vos œuvres ? Alors, la question est peut-être...
Alors, normalement, l'art se regarde avec le cœur. On regarde avec les yeux, mais c'est le cœur qui doit capter les choses. Et ce n'est pas l'intelligence tout de suite, c'est le cœur. Donc, il faut voir ce qu'il y a. Alors, c'est pour ça que chez moi, il n'y a pas grand-chose. Mais le pas grand-chose qu'il y a, il faut regarder... Donc, par exemple, quand vous irez à la galerie Oblique, vous verrez deux grandes planches. Mais il faut regarder comment elles sont posées, quelles sont les couleurs, comment le geste du peintre interfère sur ces planches. Qu'est-ce qu'il y a sur ces planches entre, il y a une toile. On peut regarder les bords, etc.
Il faut fermer les yeux. Donc,
il faut bien les ouvrir. Mais ouvrir les oreilles du cœur et les yeux du cœur.
Le vernissage le 1er avril, en votre présence aussi ?
En ma présence, bien sûr.
Vous êtes là donc que pour le vernissage ou vous repassez des fois si on veut
non,
vous rencontrer ?
Non, je serai là le 1er avril, le 8 avril et le 5 mai, c'est ça ?
Oui, d'accord.
Au finissage.
Christian, donc juste pour savoir, côté plutôt pratique, c'est ouvert de quelle heure à quelle heure ? Il faut aller sur site internet.
Alors, les heures d'ouverture, c'est du mercredi au dimanche, de 17h, de 12h, pardon, de 12h à 17h30.
D'autres expos dans le pipeline ?
Alors, plusieurs expos, donc les quatre expos de cette année, il y aura Donc Vincent Fournier jusqu'au 5 mai, Alexandre Leuil du Trétien, mais qui habite Lausanne maintenant, du 27 mai jusqu'au 30 juin, Bercla de Sierre, qui enseigne au collège l'art visuel du 2 septembre au 6 octobre, et une genevoise, Ariane Monod, du 28 octobre au 1er décembre.
Vincent, vos idées pour la suite ?
Alors, en fait...
Dans votre recherche, enfin, oui. Voilà, il y a cette expo qu'on va voir.
Alors là j'ai eu plusieurs expos qui sont arrivées les unes après les autres. Et vous savez, les artistes, c'est pas des grands bosseurs. Hein.
Ok.
Alors,
non, on va pas casser le mythe avant.
Non, non, mais ça, c'est pour c'est une dérision, donc, hein, qu'on se comprenne bien. Alors là, ce qui m'intéresse, oui, maintenant, c'est parce que le temps de l'exposition est hyper important, parce qu'on sort les œuvres de l'atelier et on les juge. On dit, voilà, ça c'est bien, c'est pas bien. Donc ça, c'est un moment hyper important. Et puis ce que disait Christian, c'est vraiment juste, c'est qu'il n'y a pas assez de lieux d'exposition. Alors un artiste reste avec ses œuvres et puis en fait, il a de la peine à évoluer, à moins qu'il soit hyper lucide sur ce qu'il fait, à évoluer parce qu'il ne peut pas juger son art hors de l'atelier.
Vous aimez le contact avec les visiteurs ? Est-ce que c'est pour vous, ça vous apporte quelque chose ?
Alors,
d'expliquer l'œuvre, de
parler. Oui, alors parce que moi je pense que la création artistique dépasse complètement ce que l'artiste fait. Donc l'artiste reçoit une intuition. S'il a les outils et l'expérience et l'authenticité, eh bien il arrive à la redonner très bien cette intuition. Il arrive très bien à la redonner. Mais le regard du spectateur vérifie cette intuition. Alors si vous pensez qu'une œuvre est vraiment bien, avec le temps, vous savez qu'elle aura une résonance chez les autres. Mais les autres aussi aident l'artiste à grandir.
Donc vous acceptez aussi les critiques et vous nourrissez de ça.
Oui, elles sont hyper importantes.
Très intéressant. Alors merci Vincent, merci Christian. Donc je rappelle Espace Oblique du 1er avril au 5 mai avec le vernissage le 1er avril.
Et c'est pas un gag, hein, le 1er avril.
Non, bon, ouais, non, on peut pas enlever le 1er avril. Effectivement, alors voilà, nous invitons nos auditeurs à passer vous rencontrer. Donc, si pour les questions, allez voir sur le site internet. Voilà, merci beaucoup et une bonne soirée.
Merci, bonne soirée.
Pour cette deuxième partie dédiée aux expositions, nous avons le plaisir d'accueillir Julien Marolf. Bonsoir, Julien.
Bonsoir.
Qui vient nous parler de l'espace contre-contre. Un peu les mêmes questions qu'avant. Comment l'espace contre-contre a été créé ?
Alors, c'est une communion entre deux artistes, c'est Faro et moi. On était président de Visarte à l'époque, et puis avec quelques discussions, en regardant j'étais dans cet atelier, le lieu était mon atelier. On avait décidé en commun accord de peut-être racheter le lieu et de faire un espace culture et deux ateliers adjacents. Et puis ça s'est fait. Et puis on a construit, on avait eu 4 ans pour construire le lieu avec des samedis, des dimanches. Et le lieu s'est fait avec nos regards chaque fois. Et puis on est heureux du projet.
Vous êtes les deux sculpteurs.
Voilà. Tout à fait.
Avec des styles, la même chose, particulier ou...
Pas du tout la même chose. Lui, il est dans la beauté. Moi, je suis dans dans l'expression.
D'accord. L'objectif, c'est de promouvoir la création de différentes formes. Plutôt sculpture ou vous êtes ouvert un peu à d'autres choses ?
Alors, l'idée, c'était de faire un espace. Au début, on a créé pour une galerie. Donc, c'était une gérante qui devait tenir la galerie. C'était Emmanuel Di Borgio, qui a tenu pendant 2 ans la galerie. Mais dans l'idée, on voulait un espace culturel où ça pouvait être de la peinture, de la sculpture, du théâtre, donc multiculturel.
Avec de la création sur place aussi ?
Peut-être de la création sur place, tout était possible. Donc ça pouvait être des installations aussi.
J'ai vu sur le site internet des disciplines artistiques anciennes et contemporaines. ancienne. Peut-être écrit en 2016. Hein,
ouais, c'est peut-être. Ancienne, parce qu'on a toute personne. Mais non, on essaie d'avoir toujours des choses un peu plus nouvelles, des créations qui des gens fassent des créations sur le lieu ou. Non, pas forcément ancienne.
Les artistes qui exposent, plutôt valaisans, romans, suisses, internationaux.
Alors, on a de tout. On essaie toujours de promouvoir les régionaux, mais on a quand même eu des gens qui venaient du Japon, de Vaud, après assez suisse quand même. Là, c'était un peu spécial.
Comment on fait pour avoir les contacts, par exemple avec le Japon?
Alors, contact, c'est, j'ai une cousine qui habite le Japon et qui connaissait un artiste qui voulait exposer en Suisse, qui a exposé déjà en Suisse, donc on le connaissait aussi. Et puis on a eu le rapport avec la Grande Fontaine, la galerie Grande Fontaine, où on a pu faire deux expositions et il a pu venir au Japon, du Japon en Suisse pour les vernissages.
Donc il y a l'exposition du 1er avril, hein, donc c'est pas un gag, hein, du 1er avril au 23 avril, Laurent Dominique Fontana, la respiration du temps.
Alors la respiration du temps. Du temps, pardon, pour lui, c'est la respiration déjà. Si je fais un grand soupir ou un grand expiration, c'est prendre ce qui est autour. Donc, quand tu sculptes, il sculpte la douceur, il sculpte la fragilité, la mort, l'angoisse, enfin, tout ce qui exprime la vie. Et dans ces sculptures, bah, ça montre vraiment tout ce qui est une vie. Et sa vie, lui, la vie, c'est le temps. Et le temps passe. J'essaie d'exprimer ce qui est dit. C'est plutôt difficile. Mais, sur bois. Là, on aura surtout des sculptures sur bois. Après, il peint. Il y aura des sculptures sur papier aussi. Il fait sur le béton, sur la pierre. Donc, il est support,
voilà. Il est né en 1938, donc relativement âgé. Il a pas mal bourlingué. Il a fait aussi des expos à l'étranger.
Oui, il a pas mal d'expositions. Il a, au Canada, aux États-Unis, je crois qu'il est au Japon aussi. Donc, il est connu dans sa discipline, il est bien connu.
Comment on fait pour monter une telle expo? J'imagine il y a toute la partie logistique des œuvres. On parlait de sculpture, du béton. J'imagine que ça ne se déplace pas comme des tableaux. Ça se passe comment?
Alors, j'ai une chance d'avoir une camionnette, donc travailler la pierre. Et puis, on a fait un transport. Il habite Genève, pas trop loin. Donc, on a fait un transport le week-end passé où j'ai une petite grue. Et puis, on peut avoir des sculptures un peu conséquentes qui font de 200-300 kilos.
Le montage de l'expo, donc j'imagine il y a les œuvres, il faut quand même les mettre en scène, ça se passe comment?
Alors là, on a travaillé avec l'artiste, son ami nous a aidé aussi à avoir un coup d'œil, donc on discute ensemble, on avait déjà une discussion dans son atelier d'une pièce principale et de tourner autour de cette pièce principale. Et puis après, on a monté les sculptures et puis il y a les tableaux qui vont arriver et ça va se répondre gentiment.
Quand on visite une galerie, donc plutôt orientée sculpture, on a parlé avant peinture, les gens connaissent la peinture, les sculptures, des fois, c'est quelque chose de très abstrait. Je prends les Giacometti, par exemple. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme regard? Il faut aussi fermer les yeux en gardant les yeux grands ouverts ou...
On peut toucher.
Ouais, ok.
Après, je pense que la respiration du temps, ça fait partie dans un sens... Parcourir le lieu, il faut passer plusieurs fois autour parce qu'il y a une ambiance, une énergie qui se met dans l'espace.
Donc il faut, quelque part, il faut comprendre l'expo à l'entrée, il faut lire la...
Pas forcément. Si on ne sent rien émotionnellement ou de compréhension, je pense que c'est bien de lire. Après, il faut s'imprégner des choses... Avoir sa propre idée, avoir sa propre interprétation, parce que chacun a son interprétation. Et puis après, on lit les textes et on voit si on a un lien avec ce que raconte l'artiste.
Combien de temps pour visiter une expo de sculpture?
Pardon?
Combien de temps à peu près?
Pour monter l'exposition?
Non, pour la visiter.
Pour la visiter, là c'est 3 semaines.
Et puis les gens, quand ils viennent, il faut compter quoi?
Pardon. Ouais, il faut, je pense, on peut 20 minutes, 30 minutes... Après, on ne voit jamais tout, donc il faut repasser. Je pense que c'est bien de... C'est comme une sculpture. Quand on la fabrique, on peut être complètement à l'intérieur et trouver ça extraordinaire. Puis il faut toujours apprendre un temps pour revenir sur la sculpture, pour la comprendre, puis voir les défauts, pour voir les... Et dans une exposition, il faut passer, il y a des sculptures qui vont cacher d'autres, qui vont se répondre, qui vont... Donc il faut tourner autour, prendre le temps des visites. Je pense que c'est très important à chaque exposition de prendre du temps.
Là, c'est ouvert, c'est comment les heures d'ouverture?
Alors c'est le jeudi-vendredi de 15h à 20h et le samedi dimanche de 14h à 16h.
Et l'artiste sera sur place, donc Laurent Dominique Fontana?
Oui, au vernissage, il y aura quelques week-ends où il sera là, mais je ne sais pas tous les week-ends où il sera là.
Donc on pourra regarder éventuellement sur le site.
Voilà,
internet,
ça sera sur le site.
Ouais. Donc c'est toujours intéressant d'échanger avec l'artiste aussi, c'est votre point de vue?
Moi je pense que c'est bien, oui, le dialogue avec l'artiste, comme on a entendu tout à l'heure Vincent Fournier, on voit qu'ils ont plein de choses à raconter.
Et puis bon, l'expo 3 semaines, il y a d'autres expositions dans l'année?
Alors on est à 3 expositions. Donc celle-ci sera du 1er avril au 23 avril. Après, on va suivre avec une autre exposition que de peinture de Stéphane Sommer du 13 mai au 4 juin. Et puis, pour les expositions d'automne, on aura 2 exposants, Cathy Tolosson et Samuel Matisse.
Dernière question. C'est beaucoup, beaucoup de travail pour monter une expo, j'imagine. Pourquoi que 3 semaines?
Parce qu'on doit démonter l'exposition, on doit remonter, repeindre les murs. Il y a pas mal de travail entre deux. On est des bénévoles, on a besoin aussi un peu de repos. Il y a le gardiennage, donc il faut tout du monde pour que le lieu vive.
Un grand travail.
Un grand travail.
Merci beaucoup, Julien. Alors, on invite nos auditeurs, comme on l'a fait avant pour la Galerie Oblique, à visiter l'espace Contre-Contre du 1er avril au 23 avril. Oui.
Oui. Est-ce que je pourrais annoncer aussi...
Pas de souci.
Oui, annoncer le 15 avril, il y aura une lecture de Béatrice Monnard sur ses propres textes avec un violoncelliste qui est Baptiste Scheller. Et puis, ce sera là à 19h.
19h, le 15 avril.
Voilà.
C'est noté. Merci beaucoup, Julien.
Mais merci à vous.
Bonne soirée.
Au revoir.
Jeudi Redi, Fabien Lafarge, Victor Glacet, Thierry Vrobatel. 17h30, 18h30, en direct sur Agone Radio.
Agone Radio.
18h. Saint-Maurice Tourisme vous présente l'agenda du week-end. Vendredi, samedi et dimanche, 24, 25 et 26 mars, à l'Aula de la Tuilerie, la tant attendue revue agonoise est de retour pour une soirée de rire, présentée par les Tréteaux du Parvis. La revue s'illustre. Réservation sur tréteauxduparvis.ch. Samedi 25 mars, de 14h à 17h, la ZEB accueille les jeunes dès 7 ans à un atelier pâtisserie. Inscription obligatoire à lazeb@louine.ch. Samedi 25 mars, de 10h à 17h, participez à la Biblio Weekend à la médiathèque. Activité à la rencontre de la nature sous le thème « Mettons les voiles, sortons du bois ». Jeux de piste, exposition, atelier balade, lecture racontée. Informations sur médiathèque.ch. Samedi 25 mars, dès 18h30 au centre sportif, participez au souper de soutien du groupe scout de Saint-Maurice à l'occasion de leur 100 ans. Et dimanche 26 mars à 14h au centre sportif est organisé le loto du BBC Agone Jeunesse. Du côté des expositions, découvrez à la médiathèque du 24 mars au 22 avril l'exposition Les Formes. 8 panneaux explicatifs révèlent les secrets des formes fondamentales qui se répètent dans la nature. Suivez l'actualité des manifestations sur saint-maurice.ch/agenda.
Agone Radio. Il est passé 18h, 18h03 pour être précis. On se retrouve pour la deuxième partie de ce jeudi. On va le consacrer, on l'a dit tout à l'heure, au parc naturel régional de la vallée du Trien. Pour rappel, le parc naturel régional de la vallée du Trien, de l'Arpille à la Cime de l'Est, est un territoire qui couvre une surface de 222 km². Il est réparti sur 7 communes, Saint-Maurice, Eviona, Verneuillat, Martigny-Combes, Salvan, Finhaut et Trien. Cette idée, elle est née d'une volonté des 7 communes, avec une forte participation des habitants, de développer un échelon régional afin d'être reconnu comme un territoire qui soit exemplaire au niveau du développement durable et puis qui puisse faire face ensemble aux défis du futur. Le projet a été lancé en 2017. Actuellement, le parc a le statut de candidat. C'est l'heure de la phase dite de création. Depuis le 1er janvier 2022, une équipe opérationnelle s'est mise en place pour concrétiser 41 projets. Ces projets, ils sont liés à 4 axes, des axes qui vont guider finalement la concrétisation de cette idée de parc naturel. L'objectif 2025 pour, on l'espère, obtenir le label. Nous allons parler de l'un de ces 4 axes justement. Ce soir, on reçoit Adrien Favre et James Deriva. Dans l'ordre, Adrien, vous êtes chef de projet de l'axe biodiversité et paysage. Bonsoir.
Bonsoir.
Et James, vice-président de la commission biodiversité et paysage. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors pour recadrer, on va peut-être revenir un peu sur cette structure, hein, pas que ce soit complexe, mais il faut se l'approprier quand même. Dans ce parc, on a 4 axes, l'un de ces axes, biodiversité et paysage, on en parle ce soir. Quels sont les autres axes ?
Alors il y en a 3 autres. Le second, c'est économie durable, où on travaille sur l'utilisation durable des ressources, que ce soit par exemple des produits du terroir, que ce soit l'eau, et que ce soit aussi entre autres la mobilité durable. Le troisième axe s'intitule sensibilisation et éducation. Donc il s'agit d'amener à nos concitoyens et concitoyennes toutes les informations nécessaires en ce qui concerne les trésors que nous avons dans les 7 communes, que ce soit au niveau des écoles ou que ce soit pour le tout public. On a par exemple aussi l'élaboration d'un observatoire de la faune. Et le quatrième axe, c'est plutôt un axe de gestion qui a pour but d'amener une communication équilibrée et juste à nos concitoyens et concitoyennes. On sait qu'aujourd'hui, la communication est essentielle.
Ces 4 axes se concrétisent en projet, 41 on l'a dit, on peut dire finalement c'est ça, ce sont ces projets-là qui vont matérialiser cette idée de parc.
Tout à fait, alors que ce soit des actions absolument concrètes ou que ce soit des inventaires, que ce soit des tables rondes, etc., ce sont les projets contenus dans ces différents axes, donc entre 9 et 12 en dépendant de l'axe, qui vont permettre de réaliser le projet du parc naturel régional et le rendre concret pour nos concitoyens et concitoyennes.
Alors Agon Radio va participer à l'aspect communication puisqu'on va présenter ces différents axes et ces différents projets. Ce soir, c'est biodiversité et paysage. James, vous êtes président de la commission biodiversité et paysage. C'est quoi cette commission ? Quelle est sa fonction finalement ?
Alors, petite correction pour commencer, que vice-président ?
Que vice-président ?
Il faut laisser à Emmanuel son rôle. Donc, je dirais que l'objectif de l'axe biodiversité et paysage réside surtout dans le fait de mettre en avant la biodiversité et la qualité de notre paysage. Cet axe, il se divise en 3 thèmes assez distincts, la biodiversité, le patrimoine paysager et le patrimoine boîtier. Puis actuellement, autour de cet axe, il y a 12 projets qui sont traités par l'équipe du parc, menés par Adrien, et entre guillemets, surveillés, ou chaque fois soumis et discutés avec la commission. Le rôle de la commission, c'est d'assurer le suivi de ces projets.
Avec donc Adrien qui s'occupe finalement d'aller au charbon et de travailler sur le terrain.
C'est tout à fait ça, c'est moi qui suis au front.
Qui est au front. On va rentrer dans le vif du sujet, on est là pour ça. Hein. Donc le premier thème, c'est la biodiversité. On parle tout d'abord donc de sauvegarde des espèces menacées emblématiques, c'est le premier axe de travail. Quelles sont ces espèces emblématiques finalement ?
Alors, ces espèces emblématiques, elles sont au nombre de 3 dans les projets actuels. Quand je vais citer ces espèces emblématiques, ça va peut-être permettre aussi de calmer certaines personnes qui ont peur que le parc naturel veuille dire à un parc qu'on va venir nous lancer des cacahuètes et où on ne pourra plus rien faire.
Voilà, ce n'est pas une réserve qui sera fermée. Hein,
c'est pas une réserve d'Indien.
Très loin de ça.
Donc la première espèce, c'est la bacchante. Alors qu'est-ce que la bacchante ? La bacchante est un papillon forestier que l'on trouve ponctuellement dans le Bois Noir et le Chablais.
C'est pas une moustache.
C'est pas une moustache. La deuxième espèce, c'est la magicienne dentelée. Alors ça, c'est une sauterelle qui est considérée comme en danger critique d'extinction et que l'on retrouve rarement en Suisse. Par contre, on la retrouve dans la région du Côte-du-Rhône et entre autres dans la région de Salvan. Et enfin, la troisième espèce, c'est une espèce florale. C'est la tulipe sauvage et celle-là, on la trouve exclusivement dans la région de Salvan pour le Bas-Valais.
Donc des espèces qui doivent être, qui sont typiques à la région et qui doivent être soignées.
Il va falloir soigner leur habitat, leur zone de, où c'est qu'elles peuvent se développer pour tenter de sauvegarder ces espèces et puis de pouvoir les promouvoir.
On les appelle emblématiques parce qu'elles représentent un habitat en soi ou alors un mode d'agriculture comme c'était le cas avant, emblématique comme par exemple l'ornithorynque en Australie. Évidemment sur une échelle très différente et un peu bien moins connue que l'ornithorynque. Voilà.
Le second projet... alors, tendance, je ne sais pas, mais on parle de biodiversité en milieu urbain. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a l'aspect urbain, hein, pour bien dire que c'est un parc naturel, mais que le milieu urbain est là et il entre en compte. C'est quoi le retour de la nature dans le béton ?
Alors, c'est un petit peu ça. Je pense que les gens deviennent de plus en plus friands d'avoir des espèces naturelles autour d'eux plutôt que d'avoir purement du béton. Et on le sait, hein, par des études scientifiques que... Les gens ont tendance à être plus heureux lorsqu'ils ont accès à des parcs qui sont bien faits, à une nature qui est florissante. Donc le but de ce projet, c'est justement de ramener un peu de nature dans les milieux urbains. Par exemple, en valorisant aussi des espèces locales et naturelles dans nos parcs, comme par exemple ici à Saint-Maurice, plutôt que de faire venir des espèces exotiques et même potentiellement envahissantes qui amène très peu de point de vue écologique dans notre écosystème. C'est un projet qui a énormément de succès, probablement plus que ce que nous avons attendu. Il s'agit de plantes, il s'agit aussi d'oiseaux. Nous cherchons des fonds pour installer des nichoirs, etc. Donc il y a énormément de choses dans ce projet et qui concernent toutes les communes du parc.
Ramener un peu de nature en ville avec ça, ça peut concerner aussi les jardins.
Alors, tout à fait. On a un projet qui s'appelle Jardin naturel. Et là, il s'agit de deux choses. Premièrement, favoriser les circuits courts et puis les échanges entre les personnes au sein des différentes communes en établissant différentes grénothèques. On a l'inauguration de la grénothèque de Saint-Maurice et de Martigny-Combes qui aura lieu le 6 mai. Prochain, le principe étant que les gens amènent leur surplus de graines à la grénothèque et en reprennent d'autres que d'autres gens ont déposé. Donc c'est comme une bibliothèque de rue, mais pour des graines, ce qui évite, par exemple, aux gens de fin haut de descendre en plaine pour aller chercher un basilic qu'on pourrait très bien faire pousser à partir de graines.
On contrôle quand même ce qu'il y a comme graines dans cette grénothèque, pas qu'on se retrouve avec des graines. Par exemple, vous parliez d'espèces invasives ou de...
Alors, tout à fait.
Des choses comme ça.
Tout à fait. Alors, on est une équipe bien formée. Dans chaque commune, on a des spécialistes comme par exemple ici le potager à Gaunois ou des gens qui sont spécialistes en permaculture à Martigny-Combes et à Fin-Haut. Et ces gens-là nous permettent de décider ou plutôt de trier les graines qui doivent être là ou pas. On a écrit une charte qui décrit exactement quelles graines peuvent être incluses ou pas. Voilà.
Le projet suivant, les arbres fruitiers à haute tige, je l'ai pris comme ça. Qu'est-ce que c'est qu'un arbre fruitier à haute tige ? C'est un truc spécial ?
Alors, c'est dans le nom. c'est complètement dans le nom. Il y a des arbres fruitiers à haute tige et à basse tige. Haute tige, ça veut dire que les branches ou la couronne de l'arbre se situe à une certaine distance du sol. Donc, j'imagine, je crois que c'est environ 1m60, 1m80, alors que d'autres arbres qui sont écologiquement moins intéressants et surtout qui ont une durée de vie moins grande, ont un branchement dès le pied et une production de fruits très proche du sol. Donc c'est des arbres qui sont très très importants pour les pollinisateurs entre autres et les abeilles dont on sait qu'elles souffrent en ce moment d'un déclin assez impressionnant.
Donc là, concrètement, il s'agit quoi d'en planter ou d'en avoir plus ou de prendre soin de l'existant ?
À l'origine, le projet avait pour but de faire un séquençage, donc du travail moléculaire pour identifier les différentes variétés d'arbres isolés dans les différentes communes. Des inventaires sont disponibles, mais il s'agit là d'inventaires basés sur des vergers de grande taille. Nous, on veut aller chercher les variétés locales anciennes, puisque les anciens les ont cultivées, les ont gardées, ça veut dire que ça marche. Et donc il s'agit d'un inventaire, mais le projet s'est développé récemment en recherche de fonds pour installer un verger d'arbres à haute tige de plus de 400 arbres sur la commune de Saint-Maurice.
Ah, Saint-Maurice va avoir des arbres à haute tige.
Oui.
Enfin, je pense qu'il y en a déjà, certainement. Mais
alors,
ça sera un verger.
Bien sûr.
Second thème, le paysage, ça c'est peut-être quelque chose de plus qui va parler de toute façon à chacun. Le paysage, on le voit tous les jours, si on prend le train, si on se promène en voiture, si on va marcher dans la montagne. On y est confronté au paysage. Autour de ce thème, bien sûr, il y a d'autres projets. Le cinquième projet et le sixième, ce qui sont complémentaires, vous allez me dire. On a les alpages et les clairières d'un côté et puis les pâturages de l'autre. La volonté d'avoir des clairières et aussi des clôtures qui soient uniformes partout. Qu'est-ce que c'est ?
Alors aujourd'hui, il faut savoir que les alpages sont le plus souvent gérés par des privés, c'est-à-dire un fermier qui s'occupe de son alpage, alors que ces alpages, à l'époque, ils étaient gérés par des consortages, c'est-à-dire un groupement de personnes qui amenaient leur bétail à l'alpage. À l'époque, les consorts, donc un grand nombre de mains, un grand nombre de personnes, allaient faire des tâches sur ces alpages, et lutter contre l'envahissement de la forêt, voire même des pentes envahissantes. Aujourd'hui, dans le cadre du projet numéro 5, par rapport aux alpages, c'est donc, il est lié pour tenter de sensibiliser la population à ce phénomène et de lancer des actions concrètes pour faire comprendre à la population le fonctionnement pastoral et par des actions bénévoles, lutter contre le fait que la forêt gagne du terrain sur les alpages et également peut-être en installant certaines clôtures fixes.
Alors c'est quelque chose de très concret, hein. Je sais que si on va se promener un petit peu sur les hauts du Bois Noir à Saint-Maurice, hein, il y a un sentier didactique, et puis on peut arriver vers ce qui était un alpage à l'époque et qui est en train de le revenir, parce qu'on enlève les arbres, on ne se rend pas bien compte que si on ne fait rien, en fait les alpages disparaissent.
Alors il est évident que la forêt gagne vraiment très très vite du terrain, et que s'il n'y a pas des actions qui sont entreprises, eh bien les zones de pâturage rétrécissent à vue d'œil et de manière très rapide.
Le sixième projet, je l'ai évoqué, c'est les clôtures. Alors une analyse ou un constat, c'est qu'il y a des clôtures qui existent, qui sont toujours de nature très différente et qui sont toujours de toutes sortes. Alors là, l'idée, c'est de vraiment, c'est important, hein, de proposer aux agriculteurs, par exemple, un type de clôture, des piquets, qu'ils puissent utiliser. C'est vraiment cette idée-là de proposer quelque chose.
Alors tout à fait, c'est vraiment une proposition, c'est pas une obligation, il faut le préciser. Donc le projet de clôture consiste à installer gratuitement des poteaux qui seraient en bois indigène pour unifier le type de clôture sur nos alpages. Ce projet aurait l'avantage pour nos exploitants d'alpage de faciliter leur travail puisque ces poteaux seraient fixes, ils n'auraient plus qu'à tirer les fils entre deux. Et puis, en tant que chasseur, ça aurait aussi une grande fonction sécuritaire puisqu'on éviterait certaines clôtures qu'il y a actuellement et qui posent de gros problèmes par rapport à la faune si on pense aux flexinettes, tous ces éléments-là.
C'est des éléments qui sont dangereux pour les animaux.
Alors les flexinettes et puis certains fils sont forcément dangereux à certaines périodes de l'année, soit quand ils se frottent les bois, soit simplement en se prenant les pattes dedans. Il y a un certain nombre de gibier qui meurent comme ça. Ouais.
Et puis c'est l'occasion de le répéter, hein, c'est quand même une base volontaire, hein, c'est mis à disposition. Et ça, je pense que c'est important de le dire.
Oui, tout à fait. D'une manière générale, même les projets du parc naturel régional sont des projets quelque part en forme de service. Donc ça doit être utilisé par les gens, mais selon leur bon vouloir. Des agriculteurs sont venus de manière répétée me voir pour me demander vraiment est-ce que tu vas planter des piquets en bois sur ces rochers ? Alors on ne va pas le faire parce que c'est simplement pas possible. Et aussi, on répondra à une demande, on a une offre. S'ils ont la demande, tant mieux. S'ils ne l'ont pas, ils seront laissés tranquilles, ça c'est sûr.
Voilà, on va marquer une courte pause et puis on se retrouve pour les thèmes suivants après une petite musique. De retour avec Adrien Favre et James Deriva, nos invités du Parc Naturel Régional de la Vallée du Trien. On parle aujourd'hui biodiversité et paysage. Paysage, pour être plus précis, des différents projets liés avec cet axe thématique du Parc Régional. Le septième projet qu'on a, ce sont les châtaigneraies, les châtaigniers. Je ne pensais pas que de ce côté du Rhône, il y avait des châtaigniers.
Alors, il y en a beaucoup. Notre premier inventaire test a montré qu'il y avait 835 arbres fleurissants de grande taille, ne serait-ce que sur la commune de Martigny-Combes. Et ils sont répandus de Martigny jusqu'à Saint-Maurice de manière régulière, entre autres à la Rasse, à Épinassay ou à la Balma, par exemple.
Alors là, il s'agit de recenser les châtaigniers et puis il y a une action qui suivra.
Exactement. Il s'agit de deux choses. La première, de recenser les châtaigniers, principalement ceux qui sont de grande taille, donc ceux qui atteignent la canopée des forêts, par exemple. Ça, on le fait avec Silva Plus, qui fait voler des drones à la période de floraison. Comme les fleurs sont blanches, elles se dégagent très bien sur le fond vert. Et donc, on peut les compter depuis le ciel. Et on a fait ça à Martinicombe et on va étendre, comme ça a bien marché, la méthode de Martinicombe jusqu'à Saint-Maurice. Et puis, on est évidemment intéressé à la revitalisation des châtaigneraies. C'est un projet qui s'inscrit dans la même ligne que les alpages ou les espèces rares et remarquables. Ce sont des arbres qui ont énormément souffert de l'arrêt de l'emploi des châtaigneraies. Donc les gens ne les parcourent plus, ne les débroussaillent plus. Et les arbres décèdent, peu importe leur âge, hein, décèdent étouffés en fait par la forêt qui revient. Donc on a des actions concrètes pour rouvrir ces châtaigneraies et sauver ces arbres.
Donc le châtaignier est un arbre fragile, il est menacé par la forêt.
Relativement fragile, oui. Il supporte très mal la compétition des autres arbres et l'ombre que les autres arbres lui font. Et donc il perd ses feuilles sur le tronc, il perd ses branches basses et après il n'a plus assez de feuilles simplement pour survivre lui-même. Donc il meurt étouffé à petit feu, c'est ça.
Dans la même idée, hein, vous l'avez évoqué, ce sont les arbres remarquables. Donc là aussi, on a par commune des arbres qui méritent qu'on s'y arrête.
Tout à fait. Alors il y a deux types d'arbres remarquables en général. Le premier type est agricole, donc il s'agit d'arbres de relativement grande taille au milieu d'un champ, par exemple, qui est exploité par un agriculteur. Ces arbres-là permettent à l'agriculteur, contre bon soin, d'obtenir des paiements directs. Et il y a des arbres remarquables qui sont naturels, donc les plus grands, les plus forts, les plus hauts, les plus beaux, ou ceux qui ont une histoire particulièrement intéressante.
Qui vaut la peine qu'on les préserve. On passe au troisième thème, pardon, le patrimoine bâti. Alors, c'est l'occasion aussi de dire que ces différents projets n'existent pas indépendamment des autres, puisque là, le premier projet en lien avec le patrimoine bâti se consacre aux alpages. Alors, on parlait des alpages par rapport à la forêt. Là, c'est le patrimoine bâti des alpages qui nous intéresse.
Tout à fait. Il n'y a pas d'alpage sans qu'ils soient conservés et employés, et sans que ces bâtiments soient aussi conservés. Donc le but de ce projet-là est de faire un recensement de tous les bâtiments de nos alpages au sein du périmètre du parc, et aussi de développer des idées. Donc on parle plutôt d'un projet qui consiste à faire une liste et un projet plutôt théorique, pour faire des bases pour le développement et la conservation de ces bâtiments, à savoir lesquels ont besoin d'être rénovés, lesquels peuvent être exploités d'une manière peut-être différente, comme par exemple pour de l'agritourisme dans le futur. Voilà, donc le but de ce projet est de former les bases pour des options futures.
Sur le bâti. En matière de bâti, autre sujet qu'on connaît bien, ce sont les murs en pierre sèche.
Alors tout à fait, concernant les murs en pierre sèche, il faut tout d'abord préciser que ça n'a rien à voir avec les murs de vigne, hein, c'est totalement différent de tout ça. En fait, de nouveau, il s'agit de sensibiliser la population aux valeurs paysagères qu'ont ces murs en pierre sèche, histoire qu'on ne les perde pas et qu'on puisse même les restaurer. Pour pouvoir les restaurer, l'objectif du projet concernant les murs en pierre sèche, c'est d'organiser des formations et des informations pour pouvoir les remonter. Et puis, le projet va aussi tenter de lister tous ces murs en pierre sèche qui sont existants. C'est clair que le relevé de tous ces murs ne sera pas exhaustif, parce que c'est très compliqué, la surface est très grande et il y en a un certain nombre.
On parle aussi parfois de murgères, c'est à peu près la même chose.
Alors c'est à peu près la même chose, les murgères elles ont aussi une valeur paysagère. Les murgères c'était plutôt des tas de pierres qui étaient montées dans les alpages. Justement comme on le citait tout à l'heure avec les alpages, les consorts faisaient des tas de pierres pour éliminer les pierres et avoir un maximum de zones à pâturer.
Voilà, on ne sait pas quoi faire de toutes ces pierres, ben faisons un mur. C'est vrai, vous évoquez le savoir-faire du mur en pierre sèche, hein, c'est pas une simple pile de cailloux.
Non, C'est des structures qui sont qui demandent beaucoup d'énergie et beaucoup de travail et beaucoup de savoir-faire pour être construites. Et ça, si vous venez dans un de nos ateliers construction de murs en pierre sèche, je vous rendrai bien compte à quel point la tâche est compliquée. Et, en faisant ça, on obtient un respect tout à fait différent pour nos ancêtres qui nous ont laissé ces murs.
Et c'est peut-être intéressant aussi de restaurer ces murs en pierre sèche, parce qu'il faut savoir qu'initialement, ces murs en pierre sèche, ils n'avaient pas été fabriqués pour rien du tout. Ils avaient soit une fonction sécuritaire, soit une fonction pour avoir des zones qui soient plus plates, pour cultiver, etc. Donc, de nouveau, ça fait vraiment partie du patrimoine et c'est des choses à préserver.
Il y a d'autres murs qui existent, qui sont plus en ville, hein, des murs, je disais des murs moches, mais c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, on veut embellir les murs des villes.
Alors, les murs moches, c'est effectivement le petit surnom qu'on donne à ce projet. Son nom officiel, c'est « Des murs plus vrais que nature ». Nous sommes en train d'identifier un mur de relativement grande taille, particulièrement moche, comme on disait, un par commune. L'idée étant d'ensuite développer un concept pour les embellir avec, entre autres, des artistes ou des spécialistes de ce genre de couverture de murs, que ce soit en bois, en peinture ou quoi que ce soit. Et donc le but de ce projet est vraiment de développer ce concept pour, si le parc continue au-delà de 2024, ensuite rendre l'embellissement de ces murs concrètes.
L'occasion de dire aussi que, hein, vous le dites, hein, ça peut être de la peinture, ça peut être une œuvre d'art, par exemple, sur un mur. De nouveau, pour faire taire les personnes qui entendent parc naturel régional et qui pensent à nature à tout prix, bien sûr que c'est un élément, mais là, cet exemple des murs montre qu'il y a aussi la question du bien-vivre.
Alors, tout à fait. Je peux prendre un exemple dont on reparlera après. À Trétien, il y a un mur qui a été construit relativement récemment pour établir un parking. Le Trétien, pour le rappeler, c'est un site de grande valeur patrimoniale avec une architecture fantastique. C'est tragique de gâcher tout ça avec un mur aussi moche. Et donc, c'est effectivement le bien-vivre. Le bien-vivre. D'ailleurs, ces projets, ils ne viennent pas de nulle part. Ce sont des gens qui nous les ont proposés, entre autres celui-ci.
Ouais,
précisément pour ce mur.
On a eu un grand appel au projet. Hein, chacun a eu l'opportunité de proposer des choses. Le dernier projet dont on va parler aujourd'hui, dans la continuité peut-être, là vous parlez du Trétien, ce sont des sites d'importance nationale. Hein, la Confédération répertorie des sites d'importance nationale. Là, il s'agit de les faire mieux connaître.
Tout à fait. Alors, nous avons plusieurs sites de ce type-là. Donc, le Trétien, on en a parlé, mais ça inclut aussi Finhaut, Plancerisier, aussi très connu, Miéville et Saint-Maurice. Ce sont des sites qui sont déjà connus, mais ce sont des sites, par leur valeur patrimoniale, qui sont relativement compliqués. Lorsqu'il s'agit d'y vivre, on n'est pas libre, même si on est propriétaire de modifier sa maison, de changer ses fenêtres, etc. Donc il s'agit d'engager une conversation pour rendre cet aspect-là plus connu et pour aller de l'avant, pour que les différents parties, que ce soit la conservation du patrimoine ou les habitants, se rencontrent et parlent de leur vie respective et de leurs intérêts respectifs. Voilà.
Le temps file. Merci Adrien et James d'être venus nous rendre visite. Vous étiez avec nous pour parler d'un des quatre axes de développement du parc naturel de la régionale de la vallée du Trien, qui était biodiversité et paysage. Je l'ai dit, on retrouvera des représentants du parc dans de prochaines émissions pour parler des autres axes de développement de ce très beau projet, économie durable, sensibilisation, éducation, gouvernance et communication. Je vous souhaite une bonne soirée et merci.
Merci à vous, merci beaucoup.
Bonne soirée, merci.
Un grand merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Jeudredi. Nous parlerons à nouveau de lieux culturels à Gonois puisque nous recevrons Philippe Duvanel, le directeur du château de Saint-Maurice. Ça sera schtroumpfement intéressant. Et Walter Tchop, le conservateur de la Fondation Atelier d'Artistes. Yasmina Cordonnier nous présentera deux nouveaux livres à l'enseigne de Miroir de Page. Stéphane Davet nous dira ce qu'il ne faut pas manquer dans le ciel de ce début du mois d'avril.
Merci à nos invités du jour. Il y avait Christian Bidot, Vincent Fournier, Dominique Studer n'était pas là, mais on lui dit bonjour quand même, Julien Marolf, Adrien Favre et James de Riva. Retrouvez-nous, quoi qu'il en soit, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, on y est. Écoutez-nous sur Internet et sur le DAB+, c'est encore mieux. Vous avez des réactions, écrivez-nous sur WhatsApp 079 150 1890. Bonne suite de jeudi soir à toutes et tous. Rendez-vous dans 166 heures exactement, soit 6 fois 24 heures et une fois 23, puisque nous avancerons nos montres d'une heure. Ne l'oubliez pas, ce dimanche 26 mars. De toute façon, le téléphone fait ça tout seul. Bonne soirée.